France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation? Philosophe, historien et psychanalyste aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invité a choisi d'évoquer ce qui est devenu la référence, que dis-je, la Bible sur le sexe ou plutôt sur l'ensemble des discours, confessions, traités, données, aveux que nous tenons sur le sexe. Ce livre, c'est La volonté de savoir, le premier volume de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Écoutez-le en parler dans cette archive de 1977 et écoutez-le bien, car c'est peut-être la seule fois où vous l'entendrez rire.
Petit à petit, la sexualité est apparue comme le problème fondamental que l'homme a à résoudre. Au fond, les gens trouvent normal que quelqu'un se trouvant dans une situation vraiment très embêtée, eh bien, il va chez le psychanalyste. Et vous savez bien qu'il y a tous les après-midi à certaines radios, je ne sais pas si à la vôtre c'est comme ça, mais peu importe, des espèces de consultations générales de type matrimonial. On a un problème dans son ménage. J'ai entendu il n'y a pas tellement longtemps, justement au moment où j'étais en train d'écrire mon livre, et ça m'a beaucoup excité à continuer à l'écrire. Comme ça, un couple, une femme 10 ans de plus que son mari, le couple avait vécu en Algérie, la femme était en Algérie propriétaire d'un magasin, je crois, assez important, donc la fortune venait d'elle, et le mari, au contraire, était employé, et était l'employé de la femme. Bon, rentre en France, les indemnités de rapatriement sont, pour des raisons que j'ai mal comprises, peu importe, versées au mari, et non plus à la femme, de sorte que c'est devenu lui le patron. Problème de ménage, et vous savez la question qu'on leur a posée? Est-ce que le mari continue à avoir des érections quand il couche avec sa femme? Alors qu'il me semble que le problème du ménage pouvait être posé dans des termes qui n'étaient pas ceux de l'érection. Que la situation historique et économique, sociale aussi d'ailleurs, inscrivait tout un tas de problèmes.
Bonjour Laurie Loffer.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes psychanalyste, professeure à l'Université de Paris Cité, directrice du Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et Société, et l'on vous doit plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors avant que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi Michel Foucault, pourquoi vous avez choisi La volonté de savoir, donc pourquoi vous avez choisi le premier volume de l'histoire de la sexualité, est-ce que vous aviez déjà entendu Michel Foucault rire ?
Alors,
Le connaissez mieux que moi, donc moi c'est la première fois.
Alors, merci d'avoir passé cette archive, je la trouve extraordinaire. Je ne l'avais pas entendu rire sur cette question d'érection, je trouve que c'est quand même particulièrement savoureux, si je puis dire ça comme ça. En revanche, il y a eu pas mal de choses écrites sur le rire de Foucault. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et je trouve que c'est...
Qu'est-ce qu'on en dit d'ailleurs du rire de Foucault ?
Mais en fait, il rit. Le rire de Foucault ou le sourire de Foucault, on le voit parfois avec un sourire éclatant sur des photos.
C'est vrai.
Le rire de Foucault, c'est aussi rire de... je ne sais plus qui écrit ça, il faudrait que je retrouve, mais c'est parfois la nécessité de rire de la brutalité du monde, quoi. Aussi. Mmh. Et là, quand on entend Foucault rire de cette situation assez particulière quand même, où la question qui est posée est une question qui n'a strictement rien à voir avec la situation sociale et historique, c'est ce que dit Foucault d'ailleurs. Et là, je trouve qu'effectivement, ça prête à rire. Malheureusement, ça prête à rire sur la psychanalyse, une certaine psychanalyse. Voilà. Alors je dis malheureusement parce que en tant que psychanalyste, je suis à la fois obligée de rire avec Foucault quand j'entends ça, et en même temps, je trouve ça un peu triste qu'on doive rire de ça, quoi.
Ben il rit pas vraiment de la psychanalyse. Là, c'est plutôt des conseils matrimoniaux sur une radio. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait refaire ça ici sur France Culture ou le faire même. Peut-être, voilà, donner des conseils, une sorte de courrier du cœur. En fait, c'est pas vraiment de la psychanalyse là.
Alors en même temps, si j'ai bien entendu, il dit que dans la radio, il y a des psychanalystes qui donnent des conseils. Il me semble que parce qu'à un moment, il parle de la psychanalyse. Alors peut-être qu'il faudrait que je réécoute.
Moi aussi, il faudrait que je réécoute en fait.
Mais et il est pas impossible que
Ah si, il en parle. Le réalisateur Nicolas Berger me dit si, oui.
Ah,
il
voilà.
parle parle de psychanalyse, hein. Voilà.
Je crois qu'il fait référence à ce qui se passe à ce moment-là, dans les années 75-80, où il y a des psychanalystes qui viennent.
On peut penser à Françoise Dolto.
Exactement, exactement. Mmh. Et donc, voilà, j'ai un problème de couple, je viens à la radio et...
J'ai un problème avec mon enfant.
J'ai un problème avec mon enfant, mmh. etc., etc. Donc ça ne pouvait que plaire à Foucault.
Alors on va parler, Laurie Loffer, donc de La volonté de savoir, premier volume de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, qui est paru en 1976. C'était d'abord des cours qu'il a donnés au Collège de France. Il y a 4 volumes à l'histoire de la sexualité. Ce livre-là, il n'est pas rigolo, pour le coup. Hein. Il est vraiment, c'est un ouvrage qui est très sérieux,
oui.
Mais qui n'est pas du tout austère. Et c'est vraiment, moi je vais donner mon sentiment à moi parce que je l'ai lu cette semaine, c'est quand même, je ne suis pas foucaldienne, j'ai jamais eu de cours sur Foucault, mais vraiment, c'est une claque ce livre. Enfin vraiment, il y a quelque chose, on se dit que c'est indépassable, c'est-à-dire la manière dont il construit sa pensée sur la sexualité comme discours, la manière dont il s'oppose à l'hypothèse répressive du sexe, à savoir, tout le monde dit on ne peut jamais parler de sexe, et dit non, on ne fait que ça en parler. Voilà, ce livre est d'une puissance pas comique, mais vraiment, on pourrait dire philosophique.
Absolument. Enfin, je trouve que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce livre. C'est-à-dire que une des questions que je pouvais me poser il y a, quand j'ai commencé à exercer la psychanalyse, c'était pourquoi lire Foucault quand on exerce la psychanalyse. Alors évidemment cette question ne m'est pas venue ex nihilo, évidemment elle m'est venue dans des échanges avec Jean Allouche, hein, qui est un psychanalyste qui a introduit dans le champ freudien et le champ lacanien, qui a introduit la pensée de Michel Foucault. Ce qui n'était pas si simple dans les années début 2000. En 1998, Jean Allouche écrit une espèce de formule, une assertion qui peut paraître un peu impérative. Il écrit « La psychanalyse sera foucaldienne ou ne sera plus ». Alors, c'est vraiment un avertissement. Il écrit ça en 1998. Donc ça fait maintenant plus de 25 ans. Et cet avertissement, ou cette assertion, il la reformule lors d'un colloque que nous avions organisé à l'université, à l'époque c'était Paris Diderot, un premier colloque, Foucault et la psychanalyse. Et là on était en 2012 ou 2013. Mmh. Et il reformule cet avertissement. Autant dire que quasiment 15 ans après, il y avait encore la nécessité de relancer cette assertion, c'est-à-dire la psychanalyse sera foucaldienne ou ne sera plus. Et du coup, là, évidemment, mais pourquoi lire Foucault ? Comme vous le dites...
Oui, pourquoi n'avoir pas choisi, par exemple, Lacan, dans votre souffle de la pensée, mais, ou Freud ?
Mais en fait, Freud et Lacan, je ne sais pas si évidemment je les lis, hein, bien sûr. Enfin, c'est comme un exercice, c'est une gymnastique, je dirais presque quotidienne. Mais pour le coup, le souffle dans la pensée psychanalytique, pour moi, il est venu de Foucault. Mm. C'est-à-dire que mon exercice pratique quotidien, évidemment, s'appuie sur les grands textes de Freud, Lacan et puis d'autres psychanalystes. Mais donner du souffle à la pratique analytique, c'est aussi, selon moi, prendre en compte des auteurs qui ne sont pas psychanalystes, mais qui travaillent contre, ou tout contre, voilà, pour la psychanalyse. Et le texte, La volonté de savoir, c'est vraiment ça.
Quand est-ce que vous êtes devenue psychanalyste, Laurie Loffer, et à quel moment vous avez lu Foucault ? Je veux savoir comment c'est passé, justement, parce que vous dites, ça a changé ma pratique de la psychanalyse. Ça veut dire que vous pratiquiez déjà.
Alors... est-ce que je pratiquais déjà ? Alors en fait, je vais pas faire ma propre généalogie, en fait, je faisais des études de psychologie clinique, voilà.
Donc vous aviez la vingtaine, 25.
Alors un peu plus tard, disons que j'avais la trentaine.
Ok.
Voilà, parce que j'ai commencé par faire des études de lettres, enfin peu importe. Disons que j'avais la trentaine, j'étais en analyse, et dans mon parcours analytique, mon expérience analytique. À un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est un exercice que je crois important, intéressant, puisque voilà, j'ai commencé à être un peu mordu de psychanalyse, quoi. Donc j'ai commencé à lire des textes de psychanalystes, enfin Freud et Lacan, voilà. Et puis j'ai repris des études de psychologie. Donc,
ce qui n'est pas tout à fait pareil, hein, psychologie, psychanalyse.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que faire des études de psychologie clinique aujourd'hui, par exemple à l'université Paris-Cité où j'enseigne, ça délivre un diplôme. Et le diplôme, on a besoin d'un diplôme de psychologue pour travailler dans des institutions hospitalières ou dans des institutions... voilà. La psychanalyse ne demande pas nécessairement un diplôme universitaire, donc c'est une méthode thérapeutique, pour le dire comme ça, enfin une certaine méthode qui est voilà qui repose sur des principes fondamentaux comme le transfert, l'association libre, enfin tout ce qu'on peut savoir. Mais on n'a pas besoin nécessairement d'avoir... vous avez des psychiatres, psychanalystes, vous avez des psychanalystes qui sont ni psychiatres ni psychologues. Mais bon, voilà, j'avais une espèce de légalité, un surmoi un peu institutionnel.
Vous aviez besoin d'un diplôme, voilà. Une attestation.
Peut-être une légitimité à ce moment-là, enfin, que sais-je. Et d'ailleurs, j'ai oublié, mais peut-être que je le travaillais sur le divan à ce moment-là. Enfin, en tout cas, je fais mes études de psychologie... Et j'ai des cours d'enseignants, et je trouve que parfois, il y a des propos qui sont très normalisants, voire très normatifs. Et l'expérience que j'ai, moi, sur mon divan, si je puis dire ça comme ça, n'est pas du tout de cette nature-là. C'est-à-dire, je me sens plutôt libre, je n'ai pas d'injonction ou de prescription particulière. Et là, je trouve qu'il y a une espèce de dissonance entre la pratique intime que j'ai de la psychanalyse, de l'analyse, et ce que j'entends sur la psychanalyse. Et un jour, je dis à l'enseignante que je trouvais un peu, voilà, qui s'était d'ailleurs, je crois, exprimé sur le Pax. Voilà, on était dans ces... Voilà, c'était... On entendait beaucoup...
A priori contre, si je sens qu'elle était un petit peu normative,
voilà,
c'est ça.
A priori contre, et je me dis, mais c'est étrange comme façon d'aborder les choses. Enfin, bon. Et je lui ai lu la citation de Canguilhem dans un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que la psychologie ?» où Canguilhem, en fait, donne une... un conseil d'orientation aux psychologues. Je ne sais pas si vous
souvenez. Je ne la connais pas.
Alors, je vais essayer de retrouver pour pas juste ne pas donner de mémoire. Mais en fait, c'est très intéressant. Quand Guilhem dit, voilà, quand vous sortez de la Sorbonne, donc il s'adresse aux psychologues. Et il dit, un conseil d'orientation pour les psychologues devenant d'un philosophe. Et donc, on est en 59. Hein. À ce moment-là, la psychologie était enseignée dans des UFR, dans des départements de philosophie. Et donc, Canguilhem écrit ceci. « C'est donc très vulgairement que la philosophie pose à la psychologie la question « Dites-moi à quoi vous tendez pour que je sache ce que vous êtes ?» Mais le philosophe peut aussi s'adresser au psychologue sous la forme, une fois n'est pas coutume, d'un conseil d'orientation et dire « Quand on sort de la Sorbonne par la rue Saint-Jacques, on peut monter ou descendre. Si l'on va en montant, on se rapproche du Panthéon qui est le conservatoire de quelques grands hommes. Mais si on va en descendant, on se dirige sûrement vers la préfecture de police. » Alors, je trouvais ça intéressant. C'était un peu insolent de ma part de demander à cette enseignante, mais alors, vous travaillez pour la police ou vous travaillez pour le Panthéon, la production
pour
de
la
savoir
pensée.
Voilà, production de pensée, production de savoir. Bon. En fait, ça a été un peu le déclencheur. Canguilhem ayant été le directeur de thèse de Foucault. Et donc, ça a été un peu un déclencheur. Je me suis dit, mais en fait, ce sont vers ces auteurs-là que j'ai envie d'aller et de comprendre comment une certaine psychanalyse peut aussi résister à des injonctions normatives, quoi. Et donc, Foucault m'est apparu, enfin, voilà.
Donc, les deux se sont faits en même temps, Laurie Loffer, c'est-à-dire que vous avez, à partir du moment où vous êtes intéressé à la psychanalyse, à partir du moment où vous avez vu le carcan, peut-être policier, des concepts psychologiques, j'insiste sur psychologiques, ou sur des usages, en tout cas, de concepts psychanalytiques, vous êtes dit, voilà, Foucault va m'accompagner, va en permanence réinterroger la manière dont moi je pourrais faire de la psychanalyse.
Absolument. Voilà, je peux dire que c'est exactement ça. Et en plus, quand Foucault dit à un moment le dispositif de sexualité peut valoir comme généalogie de la psychanalyse, c'est quand même intéressant de s'intéresser, enfin de travailler ou d'analyser quelles sont les conditions d'émergence d'un certain corpus théorique. C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est pas la psychanalyse, elle est née dans un contexte intellectuel, épistémologique, théorique. Freud n'a pas inventé la psychanalyse comme ça, ex nihilo, le truc divin, comme on dit, qui lui tombe dessus. Donc, et là, je ne trouvais pas tellement ça dans les exégèses ou dans les commentaires ou dans les commentateurs de Freud-Lacan. C'est-à-dire, il y avait une espèce de discours d'auto-référence permanente. C'est-à-dire, on ne parle de la psychanalyse qu'avec les concepts de la psychanalyse.
Et aujourd'hui encore ou pas ?
Oui, bien sûr. Enfin, oui, bien sûr.
Ça a été spontané.
Ça a été totalement spontané.
Donc vous trouvez qu'encore aujourd'hui, par exemple, la psychanalyse, voilà, peut aussi être dans un entre-soi ou en tout cas, voilà, ne peut-être pas faire assez souvent son autocritique et se référer à des textes extérieurs.
Alors, moi, je pense que oui. Je pense que c'est encore le cas. Ça a un petit peu changé, mais malgré tout, ça reste encore un vocabulaire très autoréféré, quoi. C'est-à-dire, on va expliquer Lacan avec les outils de Lacan. Bon, pourquoi pas, mais on est là dans quelque chose qui ne sort pas. Et je trouvais que Foucault, justement, enfin, pour reprendre le titre de l'émission, donne un souffle, enfin une âme, un souffle incroyable à voilà ce que c'est que d'exercer une telle pratique. Enfin, voilà ce que c'est. Il n'est pas du tout dans... il n'est pas de surplomb par rapport à ça. Mais en fait, je trouve, et comme il le dit lui-même, il donne une boîte à outils. Foucault parlait de son œuvre comme une boîte à outils. C'est intéressant parce que je trouve que c'est une façon de dire que ça n'est pas un système. C'est une boîte à outils, on l'ouvre et on cherche des outils qui nous permettent de bricoler, quoi, en fait. Et ce que je trouvais intéressant aussi chez Foucault, c'est que d'une certaine façon, très critique de la psychanalyse, à un certain moment, il ne l'a pas toujours été.
Il est très nuancé, en fait, dans la volonté de savoir, parce qu'il indique les conditions d'émergence de la psychanalyse dans ce savoir de la sexualité, dans cette science de la sexualité. À la fois, il reconnaît la manière dont elle a été une rupture et la manière aussi dont elle a reconduit certaines normes, certaines figures types, certains stéréotypes même, on pourrait dire.
Absolument.
La femme hystérique, le pervers, l'homosexuel.
Absolument.
Donc, il arrive à nuancer son propos. Ce n'est pas une critique de la psychanalyse, ce n'est pas non plus, c'est pas non plus un éloge de la psychanalyse.
Non, c'est pour ça que je crois, et je continue de penser que c'est un... Et d'ailleurs, je suggère sa lecture aux étudiants en permanence. C'est-à-dire que vous avez raison de rappeler que Foucault n'est pas le penseur qui rejette la psychanalyse. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la folie, Foucault reconnaît chez Freud des gestes de rupture épistémologique très importante, une rupture très importante à son époque. C'est la fameuse phrase que reprend Derrida, d'ailleurs, où Foucault écrit « Il faut être juste avec Freud ». Il faut être juste avec Freud, et il dit qu'en fait, Freud reprend la folie au niveau de son langage. Je le cite, hein, « reconstituait un des éléments essentiels d'une expérience réduite au silence par le positivisme ». Il n'ajoutait pas à la liste des traitements psychologiques de la folie une addition majeure. Il restituait dans la pensée médicale la possibilité d'un dialogue avec la déraison. Donc il rend hommage, hein, il rend justice, comme il dit, il rend justice à Freud d'avoir rompu avec la psychologie de son temps. Et d'ailleurs, il termine la phrase comme ça. « Ce n'est point de la psychologie qu'il s'agit dans la psychanalyse, mais précisément d'une expérience de la déraison que la psychologie dans le monde moderne a eu pour sens de masquer. » C'est génial. Enfin, moi, je trouve ça formidable.
Bah justement, Laurie Loffer, on va écouter un autre extrait de Michel Foucault, tout aussi génial, oui, je suis complètement partiale, extrait de son histoire de la sexualité, La volonté de savoir.
Il y a historiquement deux grandes procédures pour produire la vérité du sexe. D'un côté, les sociétés, et elles ont été nombreuses. La Chine, le Japon, l'Inde, Rome, les sociétés arabo-musulmanes, qui se sont dotées d'une ars erotica. Dans l'art érotique, la vérité est extraite du plaisir lui-même, pris comme pratique et recueilli comme expérience. Ce n'est pas par rapport à une loi absolue du permis et du défendu, ce n'est point par référence à un critère d'utilité que le plaisir est pris en compte, mais d'abord et avant tout par rapport à lui-même. Notre civilisation, en première approche du moins, n'a pas d'ars erotica. En revanche, elle est la seule sans doute à pratiquer une scientia sexualis, ou plutôt à avoir développé au cours des siècles, pour dire la vérité du sexe, des procédures qui s'ordonnent pour l'essentiel à une forme de pouvoir-savoir rigoureusement opposée à l'art des initiations et au secret magistral. Il s'agit de l'aveu. L'individu s'est longtemps authentifié par la référence des autres et la manifestation de son lien à autrui, famille, allégeance, protection. Puis on l'a authentifié par le discours de vérité qu'il était capable ou obligé de tenir sur lui-même. L'aveu de la vérité s'est inscrit au cœur des procédures d'individualisation par le pouvoir.
Extrait donc d'Histoire de la sexualité, volume 1, La volonté de savoir, de Michel Foucault, paru en 1976. C'est le livre que vous avez choisi, Laurie Loffer, et on vient d'entendre un extrait du chapitre 3, Scientia Sexualis, dans lequel Foucault fait cette distinction entre l'art érotique, l'ars erotica, et donc cette science de la sexualité, indiquant que, selon nous, en Occident, voilà, ce qui primerait, ce serait cette science de la sexualité, et la vérité serait extraite non pas du plaisir lui-même, mais des procédures de vérité et donc de l'aveu.
Je crois que là, c'est tout à fait intéressant de revenir sur cet extrait parce que dans le quatrième volume, de l'histoire de la sexualité, c'est-à-dire les aveux de la chair, dont on a fait un colloque et il y a eu une publication avec Sandra Beringer sur les aveux de la chair, généalogie du sujet chez Michel Foucault.
Ça s'appelle Après les aveux de la chair.
Après les aveux de la chair, bien sûr. C'est une publication chez Eppel. Alors, je fais une petite parenthèse. Eppel, c'est la maison d'édition qui a été justement cofondée par Jean Allouche. Donc il y a là...
Voilà, la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée, absolument. Et d'ailleurs, il va y avoir un prochain livre de Sandra Beringer qui s'appelle « La sexualité antique, une histoire moderne », où justement, tout est déplié autour de ce que Foucault et Venn, Paul Venn, montrent comment il y a une construction discursive de la sexualité, y compris de la sexualité antique, dans la modernité. Et pourquoi je fais ce petit détour ? Parce que, quand, encore une fois, on exerce la psychanalyse comme moi, c'est intéressant de lire Foucault pour analyser la question du dispositif. Et dans les aveux de la chair, Foucault considère que l'aveu est un dispositif quasiment l'ancêtre du dispositif de la psychanalyse. En disant, voilà, c'est un dispositif qui consiste à dire à la personne qu'il faut que cette personne tienne un discours sur elle-même au motif que la vérité, un discours sur la sexualité.
Voilà, c'est ça.
Bien sûr, un discours sur la sexualité, au motif que un discours sur la sexualité va être articulé à la vérité de sa subjectivité. Il y a une espèce de triade.
Ah, mais ça, c'est assez indémêlable. Il faut démêler cette triade, Laurie Loffer. Pourquoi faut-il parler de sexe ? Pourquoi parler de sexe me fournirait-il le secret de mon être, de mon identité? Et est-ce d'ailleurs, en cure, est-ce qu'on parle vraiment de sexe? Pas tant que ça, non?
Alors là, c'est difficile de répondre de façon très générale à est-ce qu'on parle de sexe dans une cure? Parfois, il arrive que certains...
Oui,
que certains
mais
analysants...
est-ce qu'on parle que de ça?
Non,
quand on va en cure psychanalytique, on va pas forcément
bien
dire
sûr que
ce
non.
qui est totalement différent d'aveux qu'on peut fournir sous la torture d'interrogatoires pour voir ce qu'il y aurait de déviance chez un être.
Exactement.
Là, en cure psychanalytique, on n'arrive pas forcément en disant...
Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Foucault, quand il parle de Lacan, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, considère qu'il y a une rupture aussi entre Freud et Lacan. Alors, en fait, bien sûr qu'on ne parle pas que de sexe ou que de sexualité. En fait, on peut parler de sexe sans sexualité. Pour le dire comme ça. C'est-à-dire que ça, là encore, je me réfère à Jean Allouche, qui disait il faut délester le sexe de la sexualité. La sexualité, c'est un dispositif discursif qui renvoie à ce que Foucault... aux références de Foucault sur la scientia sexualis. La scientia sexualis, qu'est-ce que c'est? C'est l'émergence de la sexologie fin 19e, début 20e. Où là, on a, avec le manuel, la somme de Krafft-Ebing, Richard von Krafft-Ebing, qui est le psychiatre allemand de la fin du 19e, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Psychopathia sexualis, où en fait... c'est un manuel à destination des psychiatres, des psychologues, alors pas encore des psychanalystes, parce que ça n'existait pas encore tout à fait à cette époque-là, qui dit, en fait, tout ce qui n'est pas, tout acte sexuel qui n'est pas à visée de reproduction de l'espèce est un acte pervers. C'est ça, la démarche de la scientia sexualis, c'est ça. Donc vous imaginez l'ampleur du manuel. Donc c'est en fait la sexologie normalise, hein, en disant voilà, en fait tout ça ce sont des perversions. Donc il y a, alors, à l'époque on pouvait parler de mais même des choses, alors bien sûr l'homosexualité c'était le premier, hein, il y avait deux grands deux grandes
psychopathologies, comme il aurait pu le dire.
Oui, deux grandes psychopathologies à l'époque fin 19e, enfin 18-19e, c'était la masturbation. Voilà, donc là, on avait Tissot, des ouvrages énormes sur les dangers de ça, de cette pratique, si je puis dire ça comme ça. Et à partir du 19e, ça a été l'inversion, ce qu'on appelait l'inversion, c'était l'homosexualité. Et d'ailleurs, Foucault en parle, hein, dans La volonté de savoir, c'est-à-dire, voilà comment l'homosexuel est devenu une espèce. Et à laquelle il fallait, bien sûr, apporter soin, il fallait le guérir, quoi. Bon. Ça, c'est la scientia sexualis. Mais pour revenir à votre question sur cette triade subjectivité, vérité, sexualité, c'est ça que déconstruit, si je puis dire ce mot aujourd'hui, mais c'est ça que désarticule Foucault, en disant, en fait... pour lui, pour aller vite un peu là, mais pour lui, ce sont les dispositifs de contrôle ou les dispositifs discursifs qui produisent les subjectivités. C'est ça qui est intéressant dans la façon qu'il a de désarticuler subjectivité, vérité et sexualité. C'est-à-dire que de parler de ma sexualité ne m'apporte pas une certaine libération. Parce que c'est ça, sa dernière phrase.
C'était d'ailleurs le quatrième terme, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment parole, discours, sexe, vérité et liberté.
Voilà. Mais en fait, à la fin de l'ouvrage La volonté de savoir, Foucault dit, ironie du dispositif, on nous fait croire à notre libération. C'est génial de dire ça. Enfin, moi, je trouve ça...
Oui.
Je trouve ça formidable. Mais avec une actualité telle... C'est-à-dire de considérer qu'aujourd'hui, raconter sa sexualité, ce serait une voie de libération.
D'avoir de transgression. C'est-à-dire que c'est là où Foucault s'oppose à l'hypothèse répressive, c'est-à-dire de dire on aurait dit que le sexe serait une chose interdite, censurée, tue, silenciée, on pourrait dire aujourd'hui, oui. Ça n'est pas le cas.
Non, il parle même du sexe bavard.
Voilà, le sexe roi, le sexe bavard, roi. Le sexe raison de tout, voilà. Il dit aussi, ouais. Et pourtant on en parle partout, c'est la volonté de savoir, ce sont des interrogatoires, ce sont une science sexuelle, des arts érotiques, des données, des aveux, des confessions. Alors pourquoi on a pensé que parler de sexe pourrait nous libérer et pourquoi on le pense encore aujourd'hui, Laurie Lefebvre. Je pense par exemple à une grande enquête qui a eu lieu il y a quelques mois sur la sexualité des Français. Mm-hmm. On en a entendu parler pendant plusieurs jours, pendant une semaine. Qu'est-ce qu'on attend comme vérité sur les Français et sur soi-même quand on parle de sa sexualité?
Eh bien, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'on attend comme vérité. Je crois que... je ne sais pas, ça veut dire que... effectivement, la question que pose Foucault, c'est à quoi sert de parler de sa sexualité pour un sujet, si ce n'est, dit-il, d'entrer dans un dispositif discursif de contrôle, d'une certaine façon de contrôle, c'est-à-dire où là, on va produire un certain type de subjectivité. Bon, mais pour revenir quand même à la psychanalyse, quand Freud invente la psychanalyse, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que quand Freud invente la psychanalyse, il ne parle pas nécessairement des pratiques sexuelles. D'ailleurs, concernant l'homosexualité, il dit mais il faut laisser tranquille ça quoi, c'est pas le problème en fait. La psychanalyse ne peut rien faire, ne peut pas en tout cas promettre, dit-il, enfin il emploie le terme de faire en sorte qu'un homosexuel devienne hétérosexuel. C'est pas le problème. Freud dit ça. Et Foucault sait que Freud dit ça. Enfin, c'est un grand lecteur de Freud, hein, donc il lui-même a été psychologue, Foucault. Hein. Donc, ce qui est intéressant dans l'invention freudienne, c'est que Freud considère que les inhibitions, quand il parle au départ des femmes hystériques, il dit que ça n'est pas du tout à la Charcot des problèmes organiques, neurologiques, etc., mais ce sont des inhibitions qui ont à voir, dit Freud, avec des fantasmes qu'il considère comme des fantasmes sexuels. Donc il y a une forme d'érotisation comme ça du discours de la sexualité, mais en disant, bon, c'est ça qui peut parfois être la cause des symptômes. Bon. Mais quand Freud parle de ça, il ne dit pas que tout est sexuel et que tout est sexualité. Ça a été une des critiques de la psychanalyse, de dire c'est une pansexualité, on ne parle que de ça.
Tout est ramené à un traumatisme sexuel dans l'enfance.
Voilà. Alors, ça, effectivement, vous avez raison de rappeler ça, parce que cette psychosexualité, c'est-à-dire cette étiologie, cette obsession de l'étiologie psychosexuelle. Mais ça, je crois que c'est une inflexion ou c'est une torsion qui a été faite à l'invention freudienne. C'est-à-dire que moi je critique cette étiologie de la psychosexualité, c'est-à-dire si je suis comme ça, c'est parce que mon développement psychosexuel a été comme ça. Mais en fait, ça ce sont des étiologies, c'est presque du mythe quoi, si je puis dire ça comme ça. Hein? Je crois il y a là ce que critique Foucault, il y a une espèce de causalité directe qui est faite entre ce qu'est un sujet et ce qu'aurait été son développement psychosexuel. Mais c'est pas ça la psychanalyse.
Alors c'est pas quoi comme ça. Ah ben la psychanalyse, vous, c'est-à-dire
non mais là, voilà, moi je suis, enfin là je ne parle pas pour la psychanalyse évidemment. Ce n'est pas comme ça que moi j'exerce la psychanalyse, voilà. Mais parce que je suis traversée, parasitée, comme dirait Alouche, par la pensée foucauldienne, par d'autres types de bien sûr Alouche, j'en parle beaucoup, mais parce que ça a été un des psychanalystes qui m'a beaucoup...
Vous voulez qu'on écoute sa voix ?
Avec grand plaisir, ça me fera très plaisir.
On écoute la voix de Jean Alouche.
Comment David Halperin peut-il savoir, même savoir certain, que Foucault était un saint ? Cela, c'est la France qui le lui a offert. Tout simplement parce que il est arrivé quelque chose à Michel Foucault. Saint Foucault Toward Gay Geography en France. Ce qui est arrivé à ce livre paru aux États-Unis, donc, c'est qu'il a été coupé en deux. Exactement comme ce qui arrive aux saints, qui sont aussi mis en morceaux, et leurs morceaux sont dispersés ici et là pour faire l'objet non sais quel culte. J'y vois la preuve, en quelque sorte, de la sainteté de Foucault. Une sainteté difficile d'accès, car sans dévotion, sans proximité, sans intercession, sans dette, contingente, hors tout rapport de maîtrise. En un mot, une sainteté queer. Je laissais entendre à l'époque aux Lacaniens qui pourraient en prendre de la graine.
Et oui, les Lacaniens devraient en prendre de la graine. Lire Foucault, c'est ce que vous faites, Laurie Loffer. C'était une archive extraite d'une conférence qui s'intitule « Fascination et escamotage ». Et vous y étiez présente, Laurie Loffer. On n'a pas la date, vous avez une idée, vous ?
Il faudrait que je regarde dans les archives.
On vous voit sur la vidéo. On voit sur la vidéo de cette conférence.
Oui, je pourrais pas dater cette conférence, mais je vous dirai. Je regarderai sur le site de Jean Allouche. On peut tout à fait voir toutes les conférences qu'il a données. Donc.
En tout cas, dans cette archive, Jean Allouche souligne bien la nécessité pour les lacaniens, mais donc pour la psychanalyse, de lire Foucault, c'est-à-dire de se décentrer, comme si la psychanalyse, d'une certaine manière, ne pouvait pas faire son autocritique ou se renouveler sans avoir accès à un ailleurs comme celui de Foucault.
Tout à fait.
Et alors ça, est-ce que c'est pas un drame quand même pour la psychanalyse de se dire que c'est pas de l'intérieur qu'elle puisse se renouveler, c'est pas à partir de ses propres textes qu'on puisse la critiquer, Laurie Loffer?
Mais ce qui est étonnant dans ce constat que vous faites et que je trouve effectivement assez juste, c'est que paradoxalement, Freud a inventé la psychanalyse par des points d'extériorité. C'est-à-dire en s'intéressant à la neurologie de son époque, en s'intéressant à la psychiatrie de son époque, et donc il voulait faire rupture. Donc en fait, c'est la psychanalyse est née, enfin en tout cas la psychanalyse freudienne telle qu'il l'invente, est née depuis les marges. C'est-à-dire depuis, on sait bien la méthode freudienne. Donc oui, c'est une question que je ne cesse de poser ou de me poser. C'est-à-dire comment se fait-il que, et là encore, je me réfère à Jean Allouche, que il n'y ait pas tellement de points d'extériorité qui permettent de rendre un peu dynamique ou vivifiante l'épistémologie de la psychanalyse. Ce que je veux dire par là, c'est que critiquer la psychanalyse peut lui donner sa consistance théorique. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement une critique qui consisterait à détruire ou à je ne sais, parce que ça a quand même été beaucoup ça, l'une des critiques faites à des psychanalystes. Alors, comme moi, ou bien avant moi aussi, notamment les premières psychanalystes dites féministes, qui ont voulu lire Freud et Lacan différemment. Il y a une phrase de Lucie Rigaraille que j'aime beaucoup, lorsqu'elle dit « Je dirais que la psychanalyse, malheureusement, n'apporte pas ou plus la peste. » Vous savez, ça fait référence à ce que Freud disait quand... Enfin, La mythologie de cette phrase, c'est Freud arriverait aux États-Unis par bateau et aurait dit « Ils ne savent pas qu'on leur apporte la peste ». Bon, voilà. Bref, pas parler des États-Unis. Mais donc, je reprends la phrase de Lucie Rigaraille. « Je dirais que la psychanalyse, malheureusement, n'apporte pas ou plus la peste, mais qu'elle se conforme trop à un ordre social. » On est en 74. Détruire la psychanalyse, m'avez-vous demandé ? C'est toujours elle qui parle, Lucie Rigaraille. J'essaie plutôt d'analyser un certain mode de son fonctionnement et à partir de là, de modifier sa pratique. Ben, c'est pas mal de dire ça. C'est-à-dire que on est en 74, donc juste après les mouvements de dite libération sexuelle. Lacan est en train de donner son séminaire Encore sur la jouissance féminine. Donc là, il y a vraiment un mouvement. Le mouvement féministe français, avec ses pluralités de féminisme, a beaucoup apporté à une critique de la psychanalyse. Je crois que c'est aussi important de le dire parce que, bien sûr, j'ai choisi Foucault, La volonté de savoir, en 76, mais j'aurais pu choisir des textes.
En fait, vous auriez choisi tout ce qui n'est pas Freud et Lacan. Absolument. Pour pouvoir critiquer Freud et Lacan.
Absolument. Et j'aurais pu choisir tout un corpus, j'ai beaucoup hésité, mais j'aurais pu choisir tout un corpus de féministes à partir des années 70, que ce soit Antoinette Fouque, que ce soit Cixous, et que ce soit une des théoriciennes essayistes critiques de la psychanalyse, comme Monique Wittig, par exemple, pour parler de la psychanalyse. Et pour dire, voilà, il y a aussi eu des voix qui ont travaillé le corpus analytique, qui ont travaillé Freud et Lacan, pour le critiquer et pour apporter des voies nouvelles.
Mais pourquoi ne pas abandonner la psychanalyse si elle a besoin d'extériorité, si elle ne se suffit pas à elle-même, si les concepts qu'elle déploie et la pratique qu'elle met en place peuvent être normatifs, qu'on lui fait des critiques, par exemple, sur son rapport, par exemple, elle pourrait avoir de la transphobie, déployer de l'homophobie, essentialiser les genres,
tout
féminin, masculin.
Tout à fait.
Pourquoi vous voulez continuer la psychanalyse? Pourquoi ne pas abandonner finalement ça? Et d'ailleurs, même en choisissant Foucault, Vous avez, Foucault souligne hein, l'apport, on va y revenir, on va avoir, entendre un autre texte de la psychanalyse, mais il est très critique, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la psychanalyse reproduit quand même ce passage de la loi à la norme, oui, des figures, oui. On l'a dit, comme l'homosexuel ou le pervers. Voilà, il y a quand même quelque chose de... C'est un pouvoir, c'est pas seulement savoir, c'est un pouvoir qui contrôle les individus.
Eh bien... pourquoi continuer d'exercer la psychanalyse après tout ça, après toutes ces critiques? Parce que je continue de penser que c'est aussi une expérience et une pratique de la liberté. Pas de la libération, de la liberté. Et là encore, je me réfère à ce que, des derniers textes de Jean Allouche, s'adresser à la liberté d'autrui. Voilà. C'est une pratique qui peut s'adresser à la liberté d'autrui.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a des... Des moments où la pratique, l'expérience analytique peut permettre de se désentraver, justement d'être critique du dispositif dans lequel on est en train d'être. C'est pas rien de faire ça. C'est-à-dire que de dire, mais en fait, je comprends par l'expérience que j'ai de ce dispositif, de l'aveu, etc., que ce sont des fictions. Que c'est un leurre, qu'en fait ce dispositif ne m'apporte pas nécessairement une vérité de moi-même, mais m'apporte une certaine liberté de moi-même, une liberté à être tel que je suis.
C'est-à-dire à pouvoir dire ce que je veux, par exemple. On parle du dispositif psychanalytique, là.
Ah oui, 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 absolument. Mm. C'est-à-dire de dire, mais en fait, dans ce dispositif, je ne suis pas tenue de parler de sexualité. Je ne suis pas tenue de parler de papa, maman, du complexe d'Oedipe, etc. Je ne suis pas tenue de... Mais ça, il faut pouvoir faire l'expérience de cette entrave. Mais pour s'en défaire à l'intérieur même du dispositif. Donc c'est aussi, à un moment donné, une pratique qui permet de se rendre compte que cette discursivité peut produire peut produire une critique qui permet l'émergence d'une certaine subjectivité.
Je crois que Lacan aurait refusé l'idée même d'une révolution en psychanalyse. Il voulait simplement être psychanalyste, ce qui supposait à ses yeux une rupture violente avec tout ce qui tendait à faire dépendre la psychanalyse de la psychiatrie ou à en faire un chapitre un peu sophistiqué de la psychologie. Il voulait soustraire la psychanalyse à la proximité, qu'il considérait comme dangereuse, de la médecine et des institutions médicales. Il cherchait en elle non pas un processus de normalisation des comportements, mais une théorie du sujet. C'est pourquoi, malgré une apparence de discours extrêmement spéculatif, sa pensée n'est pas étrangère à tous les efforts qui ont été faits pour remettre en question les pratiques de la médecine mentale. Si je remonte aux années 50, à l'époque où l'étudiant que j'étais lisait les œuvres de Lévi-Strauss et les premiers textes de Lacan, il me semble que la nouveauté était la suivante. Nous découvrions que la philosophie et les sciences humaines vivaient sur une conception très traditionnelle du sujet humain, et qu'il ne suffisait pas de dire, tantôt avec les uns, que le sujet était radicalement libre, et tantôt avec les autres, qu'il était déterminé par des conditions sociales. Nous découvrions qu'il fallait chercher à libérer tout ce qui se cache derrière l'emploi apparemment simple du pronom « je ». Le sujet, une chose complexe, fragile, dont il est si difficile de parler, et sans laquelle nous ne pouvons pas parler.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Un extrait des 10 écrits, donc pas de la volonté de savoir, Laurie Laufer, que vous nous avez indiqué, cet extrait du volume 4. Et dans ce texte, Michel Foucault parle de Lacan qui ne veut pas faire une révolution en psychanalyse, il veut être simplement psychanalyste et élaborer une théorie du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire théorie du sujet? Ça fait lien avec ce que vous disiez juste avant, Laurie Laufer, sur en analyse, en fait, on n'est pas forcément là pour parler de sexualité, de papa-maman, du complexe d'Oedipe, etc., mais pour faire acte de liberté en parlant de soi.
En fait, ce que je trouve tout à fait intéressant dans cet extrait, c'est que il me semble que cela renvoie à ce que Foucault fait comme distinction entre des modes de subjectivation et la connaissance. En fait, autrement dit, et pour aplatir un peu ça, mais entre le pouvoir et le savoir. En fait, ce qui intéresse Foucault, c'est comment un sujet... C'est le mode de subjectivation, c'est-à-dire comment un sujet peut devenir sujet et dire « je ». Il dit d'ailleurs que c'est difficile de dire « je ». Et que c'est plus important pour lui, pour Foucault, de réfléchir au mode de subjectivation, c'est-à-dire comment, comment on intériorise ou comment on intègre des éléments de pouvoir qui empêchent ces modes de subjectivation. Et pour lui, le savoir, donc un corpus théorique, participe du pouvoir. Enfin, on sait très bien comment Foucault articule savoir et pouvoir. Le savoir, c'est un des éléments du pouvoir. Donc la théorie analytique, depuis le début, pour Foucault, participe de ce savoir, mais ne dit rien de la façon dont l'analyste va exercer le pouvoir sur ce savoir. C'est-à-dire que ce qui me semble-t-il la critique de Foucault, c'est de dire un analyste, il s'agit pour l'analyste de s'interroger sur la façon qu'il a d'exercer un pouvoir sur le savoir qu'il a. Je ne sais pas si je suis claire. C'est pour ça que quand Alouche dit dans l'archive que vous avez passée, il s'agit d'être hors de tout rapport de maîtrise. C'est intéressant. C'est-à-dire que comment on arrive à se débarrasser, en tant qu'analyste, à se débarrasser de tout le savoir de la scientia sexualis qu'on peut avoir, à s'en débarrasser, c'est-à-dire à ne pas l'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acquérir ce savoir, bien sûr. Comme dit Lacan, l'analyste n'est pas ignorant d'un certain nombre de choses. Mais quel est l'usage que l'on fait de ce savoir ? Quel est l'usage que l'on fait de ce savoir ? C'est-à-dire, quelle position de pouvoir nous avons en tant qu'analyste sur ce savoir ? Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des discours analytiques qui n'interrogent pas nécessairement les effets de pouvoir sur la façon qu'ils ont sur la façon que certains analystes ont d'utiliser le savoir théorique de la psychanalyse.
Mais même du point de vue des analysants, de ceux par exemple qui sont sur le divan ou assis leur analyste, la vraie question aussi que pose Foucault par rapport à la sexualité, si nous voyons dans la sexualité le secret de notre existence, de notre être, de notre identité, et si en fait cette sexualité est investie par du savoir et du pouvoir, est-ce que je peux dire « je » sans être forcément pris dans ces mailles de savoir et de pouvoir ? Est-ce que finalement je peux avoir aussi, pas seulement dire, mais aussi avoir une sexualité complètement libre et je dirais même libérée ?
Ce que Foucault reconnaît à Lacan, c'est de dire que la psychanalyse n'est pas une herméneutique. C'est-à-dire que ça n'est pas une connaissance de soi.
C'est bien d'en finir avec cette idée, parce qu'on peut aller en analyse en se disant, pas seulement parce qu'on est dans une difficulté dans sa vie, au quotidien, mais aussi parce qu'on se dit, ah ben j'ai envie de savoir qui je suis.
Oui, mais savoir qui je suis ne passe pas nécessairement par... le tracé d'anamnèse, il faut que je me souvienne de ce que j'étais pour mes parents ou mes parents, etc. Ça ne passe pas nécessairement par ça. Ça c'est une, comment dire, c'est une version ou une vision plutôt assez, je dirais un peu ancienne de la, de, enfin je sais pas si
caricaturale,
je peux dire ancienne,
oui, réductrice.
un peu caricaturale. J'osais pas dire, merci. J'osais pas dire ce terme-là, voilà, un peu caricaturale. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la connaissance de soi ? C'est-à-dire que la question c'est comment je me produis en tant que sujet. C'est-à-dire comment ma parole produit quelque chose de ma subjectivité, mais peut-être même en dehors de la sexualité, en dehors du discours de la sexualité, comme ma parole produit quelque chose de ma liberté subjective. Mais pas uniquement d'être dans... alors, si je dis ça, ça veut dire ça. Pas simplement être dans la dans l'interprétation et dans la représentation, mais d'être dans la production de soi. D'ailleurs, Foucault, quand il parle de l'invention de soi ou de l'esthétique de l'existence, il y a des termes comme ça qui sont qui reviennent souvent sous la plume de Foucault. Ben, je trouve que c'est intéressant pour moi. Encore une fois, hein, vous le disiez tout à l'heure, c'est tout à fait partial et partiel, mais de dire que faire l'expérience d'une analyse, c'est plutôt faire l'expérience d'une invention de soi plutôt qu'une connaissance de soi.
Mais j'ai une question, Laurie Loffer, et même deux, et vous allez avoir très peu de temps pour y répondre. Pourquoi on a envie, ou pourquoi on devrait, ou pourquoi, je ne sais pas, viendrait l'idée d'avoir envie de se produire soi-même? Qu'est-ce qu'on a avec notre subjectivité?
Oui, c'est une vraie question.
Pourquoi on ne s'en fout pas?
Mais c'est une vraie question. D'ailleurs, on pourrait tout à fait se dire que cette notion de subjectivité, c'est-à-dire de se produire soi-même...
Du jeu, tout le temps.
Alors, jeu et subjectivité, ce n'est pas nécessairement la même chose.
Ah, je vous ai lancé dans un truc trop dur.
Non, ok, très bien. Alors, disons, et là je me réfère aussi à une citation de Foucault, disons que Foucault dit « les hommes génériques n'ont jamais cessé de produire une subjectivité ». C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que c'est la question du mouvement. En fait, c'est la question de... C'est quoi ? C'est la question du mouvement, c'est une question érotique, j'ai envie de dire, dans le sens d'élan érotique. À quoi ça sert ?
Même de plaisir.
Ou de plaisir.
C'est-à-dire que Foucault dit aussi dans La volonté de savoir,
de plaisir.
Plutôt que le désir, parlons de plaisir.
Exactement.
En fait, revenons à une forme d'art érotique.
Eh bien voilà. Ben, en fait, vous répondez à la question que vous posez.
Alors j'en avais une deuxième courte. Pourquoi on pense aussi qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre du secret ? C'est-à-dire que quand on va en analyse, ou même quand on se raconte soi, on est presque en enquête sur soi-même. Alors il y a la question du soi-même, mais il y a la question de l'enquête. Qu'est-ce qu'on cherche, pas seulement à connaître, mais effectivement à produire de soi, qui serait mieux que ce qu'on est déjà sans y réfléchir ?
Mais ça revient à la une des critiques de Foucault, sur laquelle je suis tout à fait d'accord, c'est... Alors vous disiez pourquoi cette notion de subjectivité, mais pourquoi cette question de vérité de soi ? La question du secret, c'est comme si tout d'un coup il y avait une vérité de moi-même cachée comme ça, secrète, et où juste l'aveu, le dispositif de l'aveu serait le fameux dispositif qui me permettrait de découvrir cette vérité. Mais pourquoi cette vérité ? D'où ça sort qu'il y ait une vérité de soi ? Je sais pas moi, heureusement que j'ai des choses que j'ai oubliées. Heureusement qu'il y a des choses qui restent. Mais pour le coup, ça, Freud puis Lacan, je crois, étaient tout à fait d'accord. Enfin, en tout cas, Foucault était tout à fait d'accord avec eux. C'est-à-dire que quand on fait une analyse ou quand on exerce la psychanalyse, il ne s'agit pas d'être ni détective ni enquêteur, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tant mieux s'il y a des choses qui surgissent. Mais qu'est-ce qui surgit ?
Ah ouais, mais souvent, rien.
Mais voilà, et bien rien.
Chanson, Laurie Loffer, pour introduire cette séquence de fin d'émission après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé et transforme encore votre vie et votre pratique de psychanalyste. Place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire mais que vous n'aimez pas quand même. Qui avez-vous choisi ? C'est une totale surprise pour moi. Normalement, je le sais, là, je ne le sais pas.
Alors, ça n'est pas tout à fait un auteur, mais c'est tous les dictionnaires de psychanalyse.
Ah, pas mal.
Ça vous plaît?
Ouais, ça me plaît. Oui, mais surtout que j'en visualise certains.
Voilà. Mmh. Alors, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a un certain nombre, mais c'est tous les dictionnaires de psychanalyse parce que, en fait, ça, c'est quelque chose auquel je résiste beaucoup parce que, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire tout ce qui tend à figer un savoir, tout ce qui tend à dire que le corpus psychanalytique n'est pas en mouvement, n'est pas pris justement dans une critique ou dans une historicisation. Un dictionnaire, ça fige à un moment, ça donne une définition. Eh bien, je crois que quand une certaine psychanalyse, elle est prise aussi dans des formes d'historicisation. Voilà, le concept tel à l'époque de Freud, eh bien, a été traversé par des remaniements. Donc, il faudrait pouvoir écrire un dictionnaire quasiment tous les...
Mais ça, c'est peut-être ce qu'il faut faire, c'est-à-dire lire plusieurs dictionnaires. Bon, ça prend une vie, du coup. Mais
Oui, mais alors pourquoi en écrire?
Oui, c'est vrai. Et en même temps, comment on fait pour... quand on s'interroge sur une définition, par exemple, si j'ai envie de savoir complexe d'Oedipe?
Le complexe d'Oedipe, par exemple, n'a pas la même définition chez Freud que chez Lacan.
Et imaginons, je n'ai pas de dictionnaire, puisqu'on oui. renonce par là même à l'idée de fixation et on opte pour un accès dans le temps historique. Je lis quoi alors, Laurie Loffer? Si j'ai plus de dictionnaire,
Vous lisez Foucault.
Je lis. Ah oui, c'est ça. Je lis Foucault.
Vous savez ce que dit Foucault sur le complexe d'Oedipe?
Non.
Alors, est-ce que je vais retrouver il est interrogé par Pellegrino et attendez, je suis désolée, je cherche mon topo en 74 dans une table ronde sur la vérité et les formes juridiques et Foucault est interpellé par Henri Pellegrino sur la question de l'Oedipe et Michel Foucault dit: vous allez trouver que je suis détestable et vous avez raison, je suis détestable. Oedipe, je ne le connais pas. Quand vous dites que Oedipe c'est le désir, ce n'est pas le désir. Je réponds oui si vous voulez. Qui est Oedipe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et Henri Pellegrino répond à Foucault: une structure fondamentale de l'existence humaine. Alors voilà une définition stricte, hein, par Pellegrino. Foucault répond, alors je vous réponds en termes deleuzien. Et ici, je suis entièrement deleuzien, que ce n'est absolument pas une structure fondamentale de l'existence humaine, mais un certain type de contrainte, une certaine relation de pouvoir que la société, la famille, le pouvoir politique, etc. établissent sur les individus. Ben, c'est pas mal comme définition de l'Oedipe. Et Pellegrino dit, mais l'Oedipe, mais enfin, la famille est une usine d'inceste, dit Pellegrino. Et Foucault répond, prenons les choses d'une autre façon. L'idée que ce qu'on désire en premier fondamentalement et essentiellement, ce qui devient le corrélatif du premier objet du désir, c'est la mère. Bon, c'est à ce moment qu'on s'instaure la discussion. Deleuze dira, mais pourquoi désire-t-on sa mère? C'est quand même pas rien. Ce n'est pas déjà si amusant d'avoir une mère. Qu'est-ce qu'on désire? Eh bien, Foucault répond et termine en disant, eh bien, on désire des choses, des histoires, des contes, Napoléon, Jeanne d'Arc, tout. Toutes ces choses sont des objets de désir.
Dernière question, et vraiment en 10 secondes, Laurie Loffer. On a entendu dans l'archive de Jean Allouche qu'il y avait une sanctification, une sainteté queer et donc une sanctification de Foucault. Est-ce que c'est pas le risque un peu du coup de se dire, bon allez, maintenant je vais répondre comme Foucault tout le temps, partout?
Non, oui. Alors, dans la bouche de Jean Allouche, Saint Foucault, c'est pas une sanctification. Il n'y a pas de fétichisation chez lui de Foucault. Voilà, ça renvoie à un texte de David Halperin dont on pourra reparler une autre fois.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Laurie Loffer, de vous, on peut lire, vous l'avez cité, Après les aveux de la chair, généalogie du sujet chez Michel Foucault, c'est coécrit avec Sandra, on dit
Beringer
aux éditions
Eppel,
pardon. Vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion, c'est aux éditions La Découverte. Et en avril, on pourra lire de vous Les héroïnes de la modernité, mauvaise fille et psychanalyse matérialiste, aussi aux éditions de La Découverte. Et pour lire La volonté de savoir de Michel Foucault, c'est disponible en Tel Gallimard. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Dalia à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, c'est Géraldine Mulman et son équipe que vous retrouverez pour une nouvelle série d'Avec Philosophie.